rock chante et le jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons voir les efforts et les opportunités de développement de l'horticulture au Sénégal à travers une excursion dans la région de Louga avec les techniciens de l'ONG internationale SOS Sahel et les producteurs locaux dans les villages. Comme dans de nombreux pays du Sahel, au Sénégal, l'horticulture occupe une place importante dans l'agriculture et l'économie nationale et est pratiquée principalement en saison sèche et en culture irriguée. La filière horticole a montré un fort dynamisme ces 10 dernières années grâce à la consolidation de pôles productifs stratégiques, à la hausse de la demande des marchés urbains nationaux et des marchés européens et aux politiques nationales de développement agricole de soutien à la croissance du secteur. Le Sénégal présente des conditions pédoclimatiques favorables à l'horticulture dans plusieurs zones du pays, mais la production horticole est concentrée principalement dans la bande littorale des Niaï et dans la vallée du fleuve Sénégal. Toutefois, ce potentiel horticole a besoin d'être dynamisé car il y a des défis et en même temps des opportunités. Au nombre des défis à relever dans les pays du Sahel, 40% des terres sont dégradées, 300 millions de Sahéliens sont à nourrir, 75% de la population gagne moins de 1 euro par jour, seulement 5% de la population rurale a accès à l'électricité. Pour les opportunités, 50% de la population a moins de 25 ans, on comptera 500 millions de Sahéliens en 2050 et 20% seulement du potentiel d'irrigation est aujourd'hui exploité. Plus spécifiquement au Sénégal, la production des principales cultures horticoles est passée de 257 000 tonnes en 2001 en atteignant 251 800 tonnes dans la campagne agricole 2009-2010, ce qui montre une performance positive de la filière avec un taux de croissance d'environ 17%. Dans le même temps, l'horticulture représente une réponse au chômage chronique des grandes villes. C'est pour toutes ces raisons que l'ONG internationale SOS Sahel et ses partenaires mettent en avant l'expertise et les initiatives des populations locales pour le développement de cette filière. Nous allons aujourd'hui dans les villages de la commune rurale du Thiep.
Bon, on va voir les maraîchers.
Notre première escale, c'est une cuvette maraîchère dans le village de Thében 1. L'occasion de voir deux méthodes d'irrigation, le système goutte à goutte et l'aspersion. Nous sommes accompagnés par Sidi Mansour Fall, technicien des eaux et forêts, animateur SOS Sahel pour les villages de la commune.
On est dans le village de Thében 1.
Alors, vous nous avez amené dans une plantation. Le maraîchage, on le fait essentiellement dans les cuvettes.
On les fait essentiellement dans les cuvettes et aussi en zone continentale, puisque aussi pendant l'hivernage, les gens ont remarqué que les productions ne sont pas, les rendements ne sont pas assez suffisants.
Et aussi, donc quand il pleut, quand on fait du maraîchage, ça ne va pas?
Les gens font du maraîchage pendant l'hivernage, dans ces zones-là, parce qu'il y a des parcelles qui sont uniquement octroyées pour la culture saisonnière. Il y a d'autres parcelles aussi que les gens utilisent pour faire des cultures hivernales, mais en maraîchage. Mais le plus souvent, vers fin août, septembre, ils ont commencé à faire les récoltes et même terminent leurs récoltes.
Donc là où nous sommes, là, dans cette cuvette, la nappe n'est pas profonde?
Dans cette cuvette, la nappe n'est pas profonde, environ 3 mètres.
Et c'est pour ça que bah, le paysan, c'est normal qu'il vienne cultiver. Ici, il fait des oignons et puis quoi d'autre?
Bon, ici, ils font des oignons et peut-être l'année prochaine, ils vont faire de la pomme de terre.
Parce que ce n'est pas bon de toujours cultiver la même chose.
Ce n'est pas bon de toujours cultiver la même chose. Il faut des rotations. Et aussi, bon, les parcelles aussi sont laissées en jachère parce qu'on fait une campagne et on laisse la parcelle en jachère pendant un an. pour le temps que, puisqu'il y a aussi la pauvreté du sol là, le temps que le sol aussi ait emmagasiné le maximum de matière organique pour l'année prochaine, et après on fait une autre culture.
Alors vous avez dit que là, SOS Sahel a encadré les producteurs ici?
Oui, SOS Sahel a encadré les producteurs à maraîchers. Parce que SOSL a d'abord appuyé les producteurs en formation de techniques de compostage, puisque les sols sont un peu pauvres, et la construction de fosses compostières pour faire le compostage. Il les a appuyés aussi en première phase, ils ont octroyé 500 mètres carrés de kit goutte à goutte à certains producteurs.
Ah, c'est les tuyaux que je vois là?
Oui, les tuyaux, oui. Et après, en deuxième phase, 1000 mètres carrés. Et à partir de là, même que la majeure partie de la population de la commune de Thiep ont commencé à s'investir dans les gouttes à gouttes. Et même beaucoup disent que c'est SOSL qui a fait entrer les gouttes à gouttes dans la commune. Au début, c'était peu, une dizaine de gens qui faisaient des gouttes à gouttes. Et maintenant, c'est presque toute la population de la commune de Thiep qui est en train d'utiliser des gouttes à gouttes.
Mais c'est normal parce que le paysan regarde ce que fait le voisin.
Oui, et aussi la rentabilité. Mm-hmm. La rentabilité, parce que c'est ce qu'ils ont essayé. On a vu que c'est plus rentable. Mm-hmm. Et aussi, on persuadait les autres. Les autres aussi ont commencé à s'investir sur ça.
On peut aller voir pour que vous montrez comment fonctionne ce goutte à goutte là.
Ici, ils ont terminé l'arrosage. Maintenant, mm-hmm. ce qui reste, c'est pratiquement la récolte.
Ah, parce que je vois qu'ils ont commencé à faire des tas là.
Ils ont commencé même à déterrer les oignons.
Ah donc ce que je vois là, c'est pas naturellement qu'ils sont dehors, c'est eux qui ont déterré.
Non, c'est eux qui ont déterré. Ils ont commencé à déterrer.
Alors là, on a la pompe.
Là, c'est la motopompe. Mm-hmm. Là, c'est le puits forage. Mm-hmm. Et le propriétaire a conçu deux puits forages. Là, c'est un puits forage. Mm-hmm. Vous voyez, la profondeur de la nappe, c'est juste 3 mètres, maximum 3 mètres.
Ah oui, d'accord, oui. Ça, c'est parce que vous êtes expérimenté que vous voyez ça. Mm-hmm. Moi, je n'aurais pas remarqué ça.
Ah, okay.
D'accord.
On voit l'eau là-bas. Là aussi, c'est un autre puits forage.
Mm-hmm. Ah oui, il y en a deux.
Il y en a deux. Mm-hmm. Donc, c'est ici la place de la motopompe. Mm-hmm. La motopompe est placée ici.
Ah, donc, il tire en fait les deux puits.
La motopompe tire les deux puits. Mm-hmm. Et la motopompe, quand on installe la motopompe ici, il y a un tuyau mm-hmm. qui recueille.
Moi, je ne peux pas vous suivre là-bas.
Il y a un tuyau qui recueille l'eau ici. Mm-hmm. Et elle transmet l'eau au niveau de ce tuyau-là.
Ah, ce tuyau central.
Oui, ce tuyau central-là, c'est ce qui fait la distribution mm-hmm. de l'eau au niveau de toute la parcelle. Dans toute la parcelle, il y a des tuyaux.
Ah oui, d'accord. Maintenant, je les remarque, je vois un tuyau là.
Oui, oui, vous voyez un tuyau. Mm-hmm. Et là aussi.
Ah oui, d'accord, mais j'avais pas vu ces tuyaux, moi. Oui, mais il faut dire aussi que c'est recouvert par les végétations.
Les végétations. Vous voyez, un tuyau est là. Mm-hmm. Donc, c'est ce tuyau-là qui sert le bloc là.
Donc, l'embout que je vois là.
L'embout là, c'est là où on fixe les gaines de goutte à goutte.
Mm-hmm.
Et quand maintenant on ouvre la motopompe, mm-hmm. l'eau arrive, et maintenant ça commence à distribuer quoi.
Mm-hmm.
Il y a le réseau qui commence à distribuer l'eau, et maintenant les gaines commencent à se remplir et l'eau commence à jaillir.
C'est-à-dire que cette eau-là qu'on envoie, ce que je vois par l'embout là, mm-hmm. la goutte, ça sort au pied de la plante.
Ça sort au pied de la plante.
Mm-hmm.
Et aussi, ça permet d'économiser l'eau et aussi de donner à la plante seulement la quantité d'eau dont elle a besoin.
Au lieu d'inonder tout, de perdre de l'énergie, de l'eau.
De perdre de l'herbe et aussi de perdre beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'herbe et aussi il y a la main-d'œuvre, quoi. On est obligé de faire le désherbage.
Ben, l'avantage, c'est que cette installation-là, une fois qu'elle est faite, chaque année, je l'utilise.
Oui, chaque année, vous l'utilisez, oui. Vous pouvez l'utiliser pendant des années avant que ça se détériore. Parce que vous voyez, avant la récolte, ils ont enlevé les gaines,
mm-hmm.
ils les ont pliées, et maintenant, ils vont les garder dans un endroit où il n'y a pas à l'abri de la lumière.
Mm-hmm.
Jusqu'à la prochaine campagne, ils font l'installation.
Mais c'est précieux, c'est normal.
Oui.
Qu'ils ont planté, il faut attendre combien de mois avant de pouvoir récolter comme ça?
Bon, ça dépend des spéculations parce que l'oignon, le cycle, c'est 120 jours, mm-hmm. maximum 120 jours et ils peuvent récolter.
Et pour la pomme de terre?
Bon, la pomme de terre, environ 60 jours.
Mm-hmm.
Oui, oui.
Généralement, dans les villages, il y a un problème quand on a fait du maraîchage. Si c'est pour sa consommation personnelle, il n'y a pas de problème. Mais pour vendre, là, il faut affronter le marché. Et le paysan n'est pas forcément armé pour affronter le marché.
Oui, pour vendre, ça pose des fois beaucoup de problèmes. Parce que le paysan, bon, il travaille pendant 4 mois, donc à la récolte, le premier souci, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il laisse à la maison. Comment faire pour payer la banque, comment faire pour payer le commerçant, comment faire pour entretenir sa famille. Donc, quand il va dans le marché, son objectif, c'est de vendre. Et des fois, les marchés ne sont pas organisés. Les commerçants, petits commerçants appelés Banabana, ils viennent avec leur prix. Donc, au lieu que le producteur fixe son prix, maintenant, c'est le commerçant lui-même qui fixe un prix.
Ah, c'est l'acheteur qui fixe son prix.
Des fois, c'est lui qui fixe son prix. Mm-hmm. Et le producteur est obligé de vendre parce qu'il y a ces problèmes qu'il a laissés à la maison.
Il y a ces problèmes, mais il y a un autre problème. C'est qu'une fois qu'il a récolté, il est obligé de vendre. C'est des denrées périssables, ça c'est d'un. Et un autre problème, c'est que toutes les cuvettes dans la zone vont récolter en même temps.
Oui, oui, oui. Ils vont récolter en même temps. Certains denrées sont périssables, mais s'il s'agit de l'oignon, la pomme de terre, ça, on peut garder ça pendant un moment. Mm-hmm. Mais ce sont les besoins qui priment.
Ça veut dire qu'on a pris des crédits.
Oui, il y a le crédit, il y a la famille qui attend et autres, donc on est obligé de vendre. Mm-hmm. Par rapport à d'autres spéculations telles que les navets, les carottes, ça ne peut pas attendre. Une fois arrivé au marché, vous êtes obligé de vendre.
D'accepter le prix qu'on vous propose.
Le prix qu'on vous propose.
Ah oui, mais dans ces conditions, comment faire pour rentabiliser son travail?
L'union qui est installée ici au niveau de la commune.
Ah, ils se sont organisés en union.
Ils se sont organisés en union. Et ils ont des magasins de stockage. Mm-hmm. Et maintenant, l'union trouve du crédit. Donc, au moment de la récolte, l'union a demandé aux producteurs de la commune de venir amener leur production au niveau.
Le magasin, c'est ce qu'on a vu en passant.
Ce qu'on a vu en passant. Et maintenant, l'union achète. Et l'avantage, c'est que les producteurs reçoivent leur argent aussitôt après la pesée. Par rapport aux autres marchés, ils peuvent prendre votre production, vous donner 1/5 de votre prix, ou bien aussi vous demandent de payer le crédit que vous avez fait. Et contrairement à l'union, aussitôt vous prenez votre argent. Et aussi, il y a le déplacement d'ici au marché central de Potou, et un problème de transport aussi se pose. Tout ça, l'union les a aidés à ne plus affronter ces problèmes-là. Les problèmes de transport, les problèmes de la main-vente, le problème aussi de ne pas recevoir à temps son argent.
Vous parlez de transport, mais c'est un peu, vous dites ça un peu rapidement. Mais nous, on est venus dans un véhicule et sans bagages. Ça n'a pas été simple, la piste. Alors, y aller avec un chargement du fruit, là, c'est un problème.
Oui, c'est un problème. Parce que ce sont les véhicules 4x4 et les camions Unimog qui font le transport. Et puis, c'est cher. En fonction des zones, les gens paient par sac. De 500 à 1000 francs par sac pour acheminer ça jusqu'au marché de Porto.
Pour en revenir au crédit, c'est-à-dire que moi, agriculteur, j'ai pris crédit avec vous, commerçants, pour produire, et je reviens vendre mon produit de ma plantation à vous, chez qui j'ai pris un crédit.
Oui, parce que le commerçant, lui, il vous donne les intrants, il vous donne la semence, il vous donne l'engrais, les produits phyto, et même la nourriture de vos employés et de votre nourriture même pendant toute cette campagne-là. Donc, quand il y a récolte, vous allez devant le commerçant. Ah, maintenant, c'est fini. Il vous donne les sacs.
Ah, même les sacs pour le conditionnement.
Les sacs pour le conditionnement. Il vous donne les sacs et vous venez au marché. Quand vous venez au marché, maintenant, bon, vous êtes obligé de vendre le commerçant. Par exemple, si le prix est à 150 dans le marché, le commerçant vous propose 125 le kilo. Et vous ne pouvez pas refuser. Si vous refusez, la prochaine campagne, vous aurez des problèmes pour avoir le crédit là. Donc, vous êtes obligé d'accepter. Et maintenant, vous acceptez, vous faites la pesée. Et le commerçant fait le calcul. Il vous dit que votre chiffre d'affaires, c'est tant. Maintenant, vous me devez tant. Il vous reste tant dans votre compte. Et des fois même, la somme là qui vous reste, vous ne pouvez pas prendre cette somme là. Ou bien il vous donne la moitié de cette somme ou bien une partie de cette somme.
En plus, il ne vous paye pas tout.
En plus, il ne vous paye pas tout. Comme ça, vous êtes toujours sous sa dépendance.
Attendez, je vais essayer de voir. J'ai mobilisé ma terre, j'ai mobilisé de la main d'œuvre, j'ai mobilisé ma famille qui m'a aidé d'une façon ou d'une autre à produire. Et à l'arrivée, je n'arrive pas à vivre de ce que j'ai produit. Et d'année en année, je m'appauvris.
Oui, vous deviendrez toujours dépendant de ce producteur-là. Parce que même si une année, il croise les bras et vous dit qu'il ne va pas vous donner, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes pour commencer. C'est pour cela, avec l'expérience que SOSL a eue dans la zone, il a commencé à sortir certains producteurs de ce problème-là. Parce qu'il y a une période où les gens ont fait du reboisement et SOSL avait sélectionné quelques producteurs. Il les avait demandé de faire des micro-projets. Les gens ont fait des micro-projets et donc en guise de récompense de la réussite des projets-là, SOSL les a appuyés sur ces micro-projets-là, les a financés gratuitement. Et il y a certains d'entre eux qui sont maintenant devenus indépendants.
Ça, c'est vraiment SOS, hein? Ce que vous décrivez comme situation,
oui, oui.
C'est vraiment SOS.
Oui,
Parce que sans une intervention extérieure, ces paysans ne pourront jamais s'en sortir.
Ouais, oui. Bon, il y a certains qui essaient de s'en sortir parce qu'ils savent que ça ne les amène nulle part. Ils deviennent de plus en plus pauvres et ils vous disent qu'ils ont fait 30 ans, 40 ans de maraîchage et là où ils ont commencé, c'est toujours là où ils sont. Maintenant, il y a certains qui ont commencé à diminuer les crédits qu'ils prenaient des commerçants. Et après la récolte, des fois, ils achètent des animaux, quelques chèvres, quelques moutons qu'ils gardent.
C'est-à-dire qu'ils se reconvertissent en autre chose.
Se reconvertissent en autre chose. Mais ils continuent aussi de faire le maraîchage. Donc, quand ils récoltent leur argent, ils se sacrifient pour acheter quelques moutons, deux moutons, une chèvre. Et maintenant, quand ils ont commencé la campagne, ils se débrouillent à avoir un pot d'oignons, un sac d'engrais. Et quand maintenant, ils font 2-3 mois, quand ils sont dans le besoin, ils prennent un mouton, ils vendent ça. Et ils prennent l'argent là pour s'entretenir.
Ce que vous décrivez, je ne sais même plus quoi vous demander. Est-ce qu'on va aller voir les planteurs?
Si.
D'accord.
Si.
Je vous remercie.
Ok, je vous en prie.
Bonjour, bonjour.
Bonsoir, Nare.
Vous allez bien?
Ça va?
Ça va.
Nare, Jean?
Bangfile.
Alandela. Dégage.
Cette phase de commercialisation est tellement cruciale pour les producteurs que nous avons tenu à rencontrer les responsables et animateurs de l'Union forestière et maraîchère locale. Pour rentabiliser son travail, il faut moderniser, c'est-à-dire faire du compostage et acheter des engrais et des amendements divers. Ensuite, investir pour mobiliser les eaux de surface disponibles et les eaux souterraines. Engager sa force de travail et mobiliser les bras valides. Or, pour se procurer tout ce matériel, il faut en passer par un crédit. Et à la récolte, on est tenu de vendre selon le bon vouloir de l'acheteur. Avec un tel mécanisme, le producteur s'appauvrit d'année en année et appauvrit les gens de sa famille. Une seule solution pour sortir d'un tel piège, s'organiser pour imposer l'achat groupé des intrants en début de campagne et la vente groupée en période de récolte. Problème ultime, sans une aide extérieure, ce travail d'organisation ne peut se faire.
J'arrive. Bonjour, bonjour. Bonjour madame. Vous allez mieux?
Le témoignage de Madame Abika, trésorière de l'Union forestière et maraîchère de Tiep. Cette union a bénéficié de l'appui de la municipalité de Tiep, de SOS Sahel, de la FAO, du programme d'aménagement et de développement économique des Niaï ou PADEN.
En 2005, je suis trésorière en 2010, je suis trésorière de l'Union forestière et maraîchère.
L'union est née en 2005. Elle est devenue trésorière en 2012.
Alors, forestière, c'est parce qu'ils font des pépinières pour stabiliser les dunes. Et maraîchère, c'est parce qu'ils font du maraîchage, c'est ça?
Oui, forestière. Des jimbats, des artundri.
Oui, l'union forestière, parce qu'elles ont une pépinière centrale. Elles font la production de plants, elles font du reboisement, la fixation de dunes et aussi l'aménagement de la bande de Filao. Elles font aussi du maraîchage, elles font de
L'oignon, navet, carottes, choux, pommes de terre, elles font toutes les spéculations.
Et qui les a aidés dans la foresterie?
Il y a des appuis venant de l'extérieur, mais le président de l'Union, qui est maire, qui s'appelle Mohamed Dia, c'est lui qui les incite et les motive à bien travailler et gérer la forêt.
D'accord.
Il y a combien de membres dans son union?
2081.
Et tous font du maraîchage?
Ils font du maraîchage tous et aussi des éleveurs en même temps.
Donc, s'il pleut ici, on cultive des cultures saisonnières, style sorgho, niébé et tout ça. Et en saison sèche, on fait du maraîchage.
Pendant l'hivernage, ils font la grande culture, le sorgho, le niébé, l'arachide et autres spéculations. Et pendant la saison sèche, ils font le maraîchage. Mais aussi pendant la saison des pluies aussi, ils font du maraîchage, surtout avec une variété d'oignons qu'ils font pendant l'hivernage.
Donc le maraîchage, on fait pour consommer soi-même et pour vendre pour avoir de l'argent.
Le maraîchage est la plus grande activité qu'ils font et c'est avec les rendements là qu'ils font subvenir tous leurs besoins. Ils vendent pour régler leurs problèmes quotidiens.
On m'a dit qu'il y a des problèmes ici parce qu'on cultive dans des cuvettes et il y a des problèmes au niveau de ces cuvettes.
Ils travaillent dans les cuvettes, mais ils ont vu que les difficultés qu'ils ont eues, c'est par rapport à la culture, par rapport à l'eau, le système d'exor. Si on les appuyait en solaire, système solaire, pour faciliter l'exor de l'eau, et aussi le système d'irrigation de goutte à goutte, ça pourrait les aider à résoudre les problèmes qu'ils se confrontent.
Alors, eux, ils ont travaillé avec SOS Sahel. Qu'est-ce que SOS Sahel a fait pour leur union?
SOS Sahel,
SOS Sahel est leur premier partenaire. Ils les ont appuyés en goutte à goutte et motopompe. Aussi, Paden aussi les a appuyés aussi en goutte à goutte et en motopompe. De même que la FAO aussi les a appuyés.
SOS Sahel Japan, Paden Japan.
Nous sommes dans leur magasin. Ce magasin existe depuis quand?
Ils l'ont construit en vers 2012.
Quoi.
Est-ce que tous les membres de l'Union peuvent venir stocker leurs oignons ici?
Toute l'Union amène sa production ici, à commencer par le président de l'Union lui-même. L'Union est soudée, ils ont une solidité de telle sorte que tout le monde amène sa production ici.
Alors comment ça fonctionne ici?
Il
dit que tout membre de l'Union peut amener sa production ici. Et quand ils amènent l'oignon, eux, ils font la peser. Et c'est l'Union qui achète l'oignon. Et le producteur est payé sur le coup. Et il rentre à la maison, subvenir, régler ses besoins. Eux, ils font le conditionnement en sac de 25 kilos.
Ce qu'ils sont en train de faire dehors.
Ils font le conditionnement en sac de 25 kilos. Et quand ils commencent à faire la commercialisation, ils font le chargement et envoient le produit. Donc au moment d'envoyer le produit, l'acquéreur leur envoie l'argent.
Avant que ce magasin existe, comment ils faisaient pour vendre leurs produits de maraîchage?
Là-bas, c'était tellement difficile parce qu'ils amenaient leur production à Poto et dans d'autres endroits.
C'est-à-dire au marché?
Au marché, oui. Au marché hebdomadaire de Poto et d'autres endroits. Et ils étaient confrontés à beaucoup de difficultés. Donc un jour, le président de l'Union les a convoqués en réunion. Il leur a dit que voilà ce qui se passait, on doit s'unir. on doit travailler ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils font des achats groupés concernant les intrants, semences, engrais, et aussi concernant aussi la production, la vente aussi, ils ont commencé à faire la vente, la commercialisation de cette façon.
Je veux comprendre, c'est-à-dire que si chacun va pour vendre son produit, le marchand fait ce qu'il veut, mais s'ils s'entendent, le marchand a un seul individu et pas tous les maraîchers, donc maintenant c'est eux qui font ce qu'ils veulent.
C'est comme ça que ça s'est passé, mais actuellement ils sont beaucoup plus à l'aise, quoi. Et ils savent que maintenant c'est ce système-là qui les arrange, quoi.
Il
y a beaucoup d'argent dans la caisse.
Oui, ils ont de l'argent, même si c'est pas nombreux, il y a de l'argent dans la caisse.
De toute façon, les femmes ne disent jamais qu'elles ont beaucoup d'argent, elles disent toujours qu'il y en a un peu.
Elle ne reste jamais aussi sans argent, quoi. Oui.
Mais donc moi je vais venir la voir, on va discuter de côté.
Wow, bête. Bête. Bonjour, Dingis.
Oui, d'accord, d'accord. Si vous venez, vous allez voir.
Mais pourquoi ils ont pris une femme trésorière? Parce que quand la femme a l'argent, elle ne va pas lâcher. Si c'est un homme, on peut aller le voir. Mais quand une femme a de l'argent dans son sac, pour la voir, c'est difficile.
La femme, là, si elle a l'argent, c'est toujours, elle pense à ce que l'argent se fructifie, quoi. C'est ça, quoi, la différence, quoi.
Les femmes ont toujours dit, si on donne l'argent à l'homme, il va aller marier une deuxième femme. C'est pour ça que nous, on le bloque.
Wow, gori, jombul, du nyuk lek, wa, du nyuk bari ajo.
Il dit peut-être que les hommes ne vont pas manger l'argent, mais ils ont beaucoup de problèmes à régler, quoi.
D'accord. Bon, maintenant, on a rigolé, mais on va être sérieux. Et c'est-à-dire qu'avant, on prenait le champ de son mari, toute la famille travaillait, le mari allait prendre des crédits pour acheter des intrants et tout ça, on travaille, et quand on récolte et qu'on va au marché pour vendre, on se fait avoir, le marchand vous donne le prix qu'il veut. En fait, on devient pauvre en travaillant.
Avant, ça s'est passé comme ça. Mais actuellement, il y a des changements qui sont en train d'être opérés. Parce qu'avant, si vous prenez tout ça du commerçant, au moment de la commercialisation, vous allez là-bas. Vous êtes obligé d'aller vers lui. Maintenant, ça commence à changer parce que aussi si le produit arrive au marché, tout le monde amène son produit au marché. Aussi, les gens, tu seras obligé de vendre au prix que tu ne souhaites même pas vendre. Et actuellement, ils ont leur marché propre ici et donc ça va alléger le marché de Poto. Et eux aussi, ils gèrent leur marché de la très bonne manière.
On
lui dit merci.
Il
dit aussi merci beaucoup.
Bon, moi j'ai fini. On y va.
Nous étions dans la commune rurale du Thiep au Sénégal avec les unions locales des producteurs horticoles. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Avant de se quitter, ce petit rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est très facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.
Ah, ici vous travaillez beaucoup.
Oui, oui, ici il y a beaucoup de travail.
Ah oui, j'ai vu, il y a beaucoup de travail. Bon, madame,
wow.
Merci.
Merci.
Et bonjour.